Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Les symboles de la foi, le Credo dit des apôtres. Ainsi que nous l'avons vu dans notre réflexion précédente, dès les premiers temps de l'Église, la profession de la foi chrétienne est requise pour le baptême, qui marque l'entrée dans la communauté des croyants. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, je cite, « La communion dans la foi a besoin d'un langage commun de la foi, normatif pour tous et unissant dans la même confession de foi. Dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Mais très tôt déjà, l'Église a aussi voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés destiné surtout aux candidats au baptême. Ce sont les numéros 185 et 186 du catéchisme. Ce que le catéchisme appelle « formule brève et normative pour tous » se rencontre déjà dans le Nouveau Testament. On peut citer à titre d'exemple cette formule tirée de l'Épître aux Romains « Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » C'est au chapitre 10, verset 9. Ou bien encore cette formule de la première épître aux Corinthiens, « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » C'est au chapitre 15, versets 3 et 4 de la première épître aux Corinthiens. Ces textes, et ceux qui seront élaborés par la suite, sont de brefs résumés qui ne prétendent pas tout dire, mais qui ambitionnent cependant de dire l'essentiel. On remarquera que dans les deux textes cités, il ne s'agit pas d'énoncer des vérités abstraites, mais des événements. Le plus important de tous ces événements étant bien sûr la résurrection de Jésus d'entre les morts. Une deuxième caractéristique, tout aussi importante que la première, c'est que celui ou celle qui énonce la foi s'engage personnellement, de manière existentielle, dans ce qu'il énonce. C'est une question de salut, c'est-à-dire de vie ou de mort. Proclamer la foi, c'est être prêt à miser sa vie sur elle et à mourir s'il le faut plutôt que de la renier. Rappelons que le mot « martyr » avec un « e » signifie « témoignage », un témoignage que l'on rend devant des tribunaux. Et le martyr sans eux, c'est le témoin. Au commencement de l'Église, les apôtres ont rendu témoignage en donnant leur vie pour le Christ, mais le premier témoin, c'est le Christ Jésus lui-même. On le voit par exemple dans la première épître à Timothée. Quand saint Paul exhorte Timothée à mener le bon combat, celui de la foi, il fait l'éloge de la belle profession de foi que Timothée a prononcée devant de nombreux témoins, et il lui rappelle à cette occasion la belle affirmation, comme il dit, par laquelle Jésus lui-même a témoigné devant Ponce Pilate. C'est dans la première à Timothée, dans l'Épître à Timothée, chapitre 6, verset 13. On voit bien par là que toute profession de la foi trouve son origine et sa vérité dans le témoignage de Jésus. Et lorsqu'un chrétien de cœur versait son sang pour Jésus, même si ce chrétien de cœur n'était pas encore baptisé, on a toujours considéré que le témoignage du sang versé équivalait à la profession de foi du baptême. C'est ce qu'on appelle le baptême du sang. Il n'est pas difficile non plus de constater que les professions de foi n'ont rien à voir avec l'énoncé de convictions subjectives. Quand on exprime son opinion, on dit « je crois que ». Quand on exprime sa foi, on dit « je crois en ». Ce n'est pas du tout la même chose, car l'objet de notre foi, c'est Dieu lui-même. Nous ne bricolons pas notre foi en flânant avec un caddie dans les rayons d'un supermarché du spirituel et en grappillant les articles qui nous attirent ou qui nous paraissent moins onéreux, comme l'imaginent malheureusement beaucoup de nos contemporains. La foi se reçoit d'une tradition, c'est-à-dire d'une transmission ininterrompue depuis l'âge apostolique. Nous ne faisons que la reprendre pour la transmettre à notre tour. Et il n'y a de foi que la foi tout entière. La foi n'est donc ni une conviction subjective, ni non plus une prise de position individuelle. Elle nous relie solidement les uns aux autres en Église, et c'est précisément pour cette raison que nous la proclamons en disant « tantôt je crois, tantôt nous croyons », le « nous » étant toujours présent derrière le « je ». Comme le précise le catéchisme, celui qui dit « je crois » dit par le fait même « j'adhère à ce que nous croyons ». Le catéchisme poursuit en distinguant trois manières différentes de nommer les résumés de la foi. Je cite « On les appelle professions de foi, puisqu'elles résument la foi que professent les chrétiens. On les appelle credo, en raison de ce qui en est normalement la première parole, « je crois ». C'est le sens du mot latin « credo ». On les appelle également « symboles de la foi ». C'est au numéro 186-187 du catéchisme. Ce dernier mot « symbole » appelle un commentaire que le catéchisme nous fournit également. Je cite « Le mot grec « symbolon » signifiait la moitié d'un objet brisé, par exemple un sceau, que l'on présentait comme un signe de reconnaissance. Chaque personne avait la moitié de ce sceau. Les parties brisées étaient mises ensemble pour vérifier l'identité du porteur. Le symbole de la foi est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolon signifie ensuite recueil, collection ou sommaire. Le symbole de la foi est le recueil des principales vérités de la foi, d'où le fait qu'il sert de point de référence premier et fondamental de la catéchèse. Fin de citation. Les vérités de la foi dont il est question s'articulent, comme nous l'avons déjà vu, autour des trois qui sont Dieu, dans ce que nous appelons la Sainte Trinité. Mais là encore, il ne s'agit pas de définition abstraite, il s'agit de la manière dont le Dieu unique s'est fait connaître dans la diversité de ses actions tout au long de notre histoire. Il l'a fait toujours de manière trinitaire. Les trois personnes divines sont toujours à l'œuvre, ensemble, dans ce que fait Dieu quand il se tourne vers le monde et vers l'humanité. Mais dans cet agir commun, chacune des personnes agit selon ce qu'elle est. Le Père agit en Père créateur, le Fils agit en Fils rédempteur et l'Esprit-Saint en Esprit sanctificateur. Ce qu'on peut résumer de la manière suivante, dans les trois parties du symbole, il est d'abord question de la première personne divine et de l'œuvre admirable de la création, ensuite de la seconde personne divine et du mystère de la rédemption des hommes, enfin, de la troisième personne divine, source et principe de notre sanctification. Dans notre liturgie actuelle, nous disposons de deux symboles, un court et un long. C'est le plus long qui nous occupera dans cette année du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, parce qu'il remonte au IVe siècle et en partie au Concile de Nicée. Le plus court est appelé « symbole des apôtres », à cause d'une légende selon laquelle chacun des apôtres en aurait composé un article. Mais ce n'est qu'une légende. D'une part, il n'y a pas 12 articles, mais 3, correspondant chacun à une des personnes divines. D'autre part, ce symbole ne remonte sans doute pas aux apôtres, mais à la liturgie du baptême telle qu'elle était célébrée dans l'église de Rome et aux trois questions que l'on posait et que l'on pose toujours à la personne qui va être baptisée, ou bien à ses parents, parrains et marraines, s'il s'agit d'un petit enfant. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant? Crois-tu en Jésus-Christ son Fils unique? Crois-tu en l'Esprit-Saint dans la Sainte Église? C'est d'ailleurs sous cette forme interrogative que le credo est repris dans la nuit de Pâques, le célébrant posant ses questions à l'assemblée et aux futurs baptisés s'il y en a. Malgré son origine légendaire, l'appellation « symbole des apôtres » garde toute sa pertinence, car ce qui est exprimé dans ce texte normatif, c'est bien la foi qui remonte aux apôtres et qui nous a été transmise à partir d'eux. La légende n'est pas qu'une légende, elle recèle une vérité profonde. Retenons surtout, pour la suite de nos réflexions, que le symbole dit « des apôtres » est par excellence le symbole du baptême. Tout baptisé est baptisé dans la foi de l'Église et il ne peut pas l'être en dehors de cette foi.